Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Florence Bolton. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un magnifique disque très différent des projets au sujet desquels j'avais eu le plaisir de vous interviewer, Le concert des oiseaux et Le carnaval des animaux en péril, une œuvre originale de Vincent Bouchot. Donc, ce concert des oiseaux qui vient de paraître pour le label Harmonia Mundi, vous êtes aux côtés des autres membres de l'ensemble La Rêveuse. Vous êtes le chœur aux côtés de Benjamin Perrault. Donc, comment est né ce projet autour des animaux en péril, Florence Bolton?
Alors, il est né au moment du confinement, d'abord par un projet sur les oiseaux, parce qu'en fait, à cette époque-là, on avait des choses à faire, mais on a beaucoup regardé par la fenêtre. Et on a
Parce que
beaucoup
vous êtes près
regardé.
d'Orléans,
Oui,
vous avez droit à une nature quand même riche.
on n'est pas loin de la Loire. Et on s'est mis à observer les oiseaux. Et de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, les oiseaux, ça a toujours été un sujet d'inspiration chez les compositeurs. Finalement, il n'y a pas tant d'animaux que ça dans la musique. Enfin, si on compare avec la peinture, par exemple, on voit vraiment des animaux partout. Dans la musique, il y en a moins. Mais dans ce moins, il y a quand même beaucoup d'oiseaux. Et on a monté un projet sur les oiseaux avec un spectacle jeune public, Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Et puis un concert, un programme de concert, donc le concert des oiseaux qui fait la première partie du présent disque. Et puis des conférences musicales, etc., sur l'histoire des oiseaux chez les compositeurs.
Alors effectivement, les oiseaux. Alors il y a deux vedettes chez les oiseaux dans le texte qui accompagne ce disque. Vous les évoquez, Florence Bolton, à savoir le rossignol et le coucou, pour des raisons très opposées finalement.
Oui,
Ils ont été mis en valeur les deux beaucoup en musique.
c'est ça. Alors effectivement, il y a quelques autres oiseaux. Hein. On trouve des
Les
poules, des
poules, les
choses comme
coqs.
ça. Voilà, il y a les fauvettes, chez couperin. Voilà, il y a quelques autres oiseaux. Mais les grandes stars, effectivement, c'est le rossignol qui est le grand virtuose, celui que on essaye d'imiter sans jamais vraiment y arriver, parce que le rossignol, il a un débit extrêmement rapide. On dit qu'il peut chanter jusqu'à 36 notes par seconde, donc chose que même en étant excellent musicien, je ne pense pas qu'on arrive à faire ça. Et puis le coucou, lui, c'est l'inverse. Il a un chant très simple, hein, deux notes, toujours les mêmes. Et pour ces deux raisons, finalement, ces deux oiseaux vont occuper le monde de la musique. L'un parce qu'il est extrêmement complexe et que c'est un défi de l'imiter. L'autre, comme il est simple, ben, il est sympathique et on le retrouve même aussi bien dans la musique savante que dans les comptines pour les enfants.
Alors le disque s'ouvre par une œuvre d'un de vos compositeurs préférés, hein, on y a fait plusieurs fois référence, c'est Henry Purcell. Donc ça c'est, il fallait qu'il y ait du Purcell de toute façon dans ce disque, Florence Bolton.
Je suis ravie qu'il ait pensé un peu aux oiseaux. Et puis ce qui est intéressant, alors on ne sait pas quel oiseau d'ailleurs, parce que ça s'appelle The Birds, donc ça ne précise pas de quel oiseau il s'agit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Purcell a quand même compris qu'un oiseau ne chante pas tout seul, parce que beaucoup de compositeurs, finalement, écrivent des solos pour des oiseaux, ce qui ne se voit jamais dans la vraie vie. Un oiseau, quand il chante, il parle, donc il va jamais parler tout seul. Et donc, on aura des duos, et c'est le cas dans cette magnifique petite pièce de Purcell. Effectivement, un oiseau chante, l'autre lui répond, et c'est ce qu'on peut observer si on va un peu se promener dans la forêt.
Alors, ce disque paru chez Harmonia Mundi, comme vos autres disques, mais peut-être plus encore, il est accompagné d'un livret avec des images assez fabuleuses. Enfin, c'est un magnifique livre-disque-objet, ce disque. Ils vous ont laissé la bride sur le cou chez Harmonia
Ah
Mundi.
oui, merci Harmonia Mundi. Ils ont été formidables. C'est vrai que le plaisir de ce disque, bon, il y a la musique bien sûr, mais il y a aussi le plaisir de voir toutes les illustrations d'oiseaux, de lire les textes aussi, puisque on explique pourquoi et quels oiseaux ont inspiré les compositeurs.
D'ailleurs, vous rappelez quelque chose alors, dont je ne me souvenais plus, ou je n'ai jamais su, c'est qu'on apprenait à chanter à des oiseaux, je crois au XVIIIe siècle. C'est une idée assez farfelue de leur apprendre justement l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est l'homme qui apprend à l'oiseau à chanter. Et ça a fonctionné pendant quelque temps.
Oui, c'est un peu le monde à l'envers et c'était un des fils rouges de ce grand projet sur les oiseaux, puisqu'on a inventé ce petit instrument, le flageolet d'oiseau, qui est une toute petite flûte. Et pour les dames, on avait inventé aussi un des premiers instruments mécaniques, la serinette, dont le nom vient de serin et de seriner. Répéter, puisque pour apprendre à chanter, entre autres au serin, donc les canaris, il fallait leur répéter toute la journée le même air. Et effectivement, c'est un peu le monde à l'envers, puisque, a priori, c'est quand même du chant des oiseaux qui est venue l'idée pour les humains de faire de la musique. Et là, au XVIIIe siècle, eh bien, on inverse le processus. C'est nous qui apprenons aux oiseaux à chanter notre musique.
Alors, ce qui est incroyable sur ce disque, c'est le nombre d'instruments que vous interprétez, vous, Florence Bolton. Alors, basse de viol 7 cordes, basse de viol 6 cordes, et puis d'autres instruments. Sébastien Marc, il a des flûtes à bec soprano, alto, flûte de voix, flûte à bec ténor, Kosuke Nozaki, flageolet d'oiseau, etc. Et puis, on va en parler, ben, Benjamin Perrault, théorbe, bien sûr, et Jean-Miguel Aristizabal, un clavecin, Philippe Humeau, d'après Christian Vater, un clavecin reconstitué, enfin reconstruit.
Oui, une copie.
Une copie.
Tous les instruments-là sont des copies. En fait, on n'a plus d'instruments originaux, malheureusement. Mais effectivement, il y a un vrai cabinet de curiosité, hein, avec des instruments étranges, hein, avec le flageolet d'oiseau, le quinton ou le par-dessus de viol, voilà, qui sont des instruments qu'on ne croise pas tous les jours dans la rue.
Mais tous ces arrangements, justement, comment vous avez conçu ce disque avec des arrangements très différents en fonction de chaque œuvre? Ça a dû être une construction d'une difficulté et d'une longueur extrême, Florence Bolton.
Alors, le disque, il est construit en trois parties. En fait, finalement, il y a une partie de musique baroque autour des compositeurs qui ont essayé d'évoquer l'univers des oiseaux à une époque où les oiseaux étaient bien tranquilles, enfin, on ne pensait pas du tout que les oiseaux étaient en péril. Ensuite, une partie 20e siècle avec des arrangements de Ravel,
Saint-Saëns,
voilà, des gens qui connaissaient bien le répertoire baroque, puisque par exemple Saint-Saëns a édité l'œuvre de Rameau, etc. Donc il s'est inspiré de La Poule de Rameau pour Poules et Coqs du Carnaval des Animaux. Donc il y a cette espèce de jeu de miroir entre le baroque et le XXe siècle. Et puis après, on passe encore dans la dimension d'après, c'est-à-dire on va arriver
à Vincent Bouchot
et le Carnaval des Animaux en péril, qui lui-même est un miroir d'aujourd'hui de celui de Saint-Saëns. Donc voilà, y a tout se répond.
Mais oui, alors c'est incroyable. Donc cette première partie, alors je dois dire qu'il y a un sommet émotionnel pour moi, c'est votre transcription des fauvettes plaintives de François Couperin, extrait du troisième livre de pièces pour clavecin. Ça, c'est vraiment une œuvre bouleversante, ces fauvettes plaintives. Ça s'imposait de toute façon aussi.
Oui, alors c'est la joie de pouvoir arranger du répertoire de clavecin, hein, chose qui se faisait déjà à l'époque, mais pour trois instruments, puisque c'est une pièce de clavecin que nous avons arrangée. Et
c'est vous qui les avez arrangées?
Oui, c'est Benjamin Perrault qui a fait l'arrangement. Après, pour ce qui est du Ravel Saint-Saëns,
oui,
c'est
Vincent
Bouchot.
Oui.
Voilà. Et oui, ce qui est touchant chez Couperin, c'est quand il parle des oiseaux, il rajoute toujours un caractère, parce qu'une fauvette, c'est pas du tout plaintif,
oui.
Ça veut rien dire pour un oiseau, mais voilà, comme on a une pensée d'humain, hop, les fauvettes plaintives, le rossignol en amour, les linottes effarouchées, voilà, Couperin, il va toujours mettre un caractère, accoler un caractère à l'oiseau, et c'est ça qui va donner la couleur générale de la pièce.
Il y a aussi le rossignol en amour de Couperin, qui
oui.
est une œuvre magnifique. Alors des œuvres aussi moins connues de Jacob van Eyck ou Théodore Schwarzkopf ou Jean-Baptiste de Bousset. Vous avez choisi et vous avez fouillé beaucoup dans le répertoire pour trouver ces œuvres.
Oui, faut trier un peu pour avoir vraiment raconté quelque chose. Alors ce qui est marrant, par exemple, avec la pièce de Schwarzkopf, que personne ne connaît Théodore Schwarzkopf aujourd'hui, sauf si vraiment on s'intéresse à la musique allemande du XVIIe siècle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il invente une sorte de duo comique entre un rossignol et un coucou, chose qui ne va jamais se produire dans la vie réelle, puisqu'un rossignol va parler avec un rossignol et un coucou avec un coucou. Et là, voilà, on a une sorte de Laurel et Hardy, enfin, de duo symbolique entre l'excellent, le virtuose, et puis le coucou, en plus, qui est joué avec une flûte basse. Donc ça fait un espèce de gros coucou qui fait un coucou comme ça, là, donc c'est comique.
Non, mais c'est vraiment magnifique. Alors, il y a cette deuxième partie qui s'ouvre avec Saint-Saëns, donc extrait du Carnaval des animaux. Et les arrangements sont vraiment très étonnants. Alors, pour moi, le plus étonnant, c'est l'arrangement de l'Aidronette, impératrice des pagodes, extrait de Mamerlois de Maurice Ravel. Alors là, l'arrangement, il est assez ahurissant. C'est
Oui, alors
magnifique.
il
Vincent
est très,
Bouchot.
très chinoisant.
Oui.
Alors après, voilà, Vincent, il arrange et puis des fois, il met aussi un peu des choses à lui. Donc, c'est pas 100% Ravel arrangé, mais c'est du, on peut dire que c'est du Ravel Bouchot. Et il est parti de la version pour orchestre, parce qu'il y a eu une première version chez Ravel de Mamerlois pour
Pour
piano.
piano
Et
quatre mains, et puis il y a la
voilà.
version pour orchestre avec un ballet, enfin avec un prélude en plus.
Voilà, et du coup, Vincent est parti de la version pour orchestre et il a eu envie de, voilà, d'essayer de reproduire un peu les timbres qui sont aussi très riches chez Ravel. Par exemple, au moment du gong, c'est le théorbe qui tape sur les cordes, ça fait blong, ça fait un peu comme un gong. Voilà, donc il y a des petites trouvailles comme ça tout au long de la pièce pour essayer de retrouver un peu les sonorités de la version pour orchestre de l'Aidronette.
C'est la première fois que la rêveuse pénètre le répertoire du XXe siècle ou du XXIe siècle, où il y a eu des antécédents.
Alors
Vous
on a.
aviez déjà joué des arrangements d'œuvres plus de contemporaines.
Oui, alors bah, on a tous fait de la musique contemporaine par ailleurs. Mais après, on a déjà travaillé avec Vincent Bouchot sur plusieurs projets. Alors celui-là, c'est bien qu'il soit au disque, parce que comme ça, il va rester gravé dans le marbre. Mais on avait déjà, oui, fait plusieurs choses avec Vincent.
Et donc, il y a cette partie-là aussi avec une œuvre de Benjamin Britten. Donc, il fallait après Purcell que vous mettiez aussi un des grands génies de la littérature musicale anglaise, Florence Bolton.
Oui, qui connaissait bien, lui aussi, la musique baroque, hein, il connaissait bien. Et c'est une œuvre qui est faite pour un chœur, puisque le frère de Britten, Robert Britten, avait un chœur de garçon. Et donc Benjamin a écrit pour son frère. C'est chouette d'avoir un frère qui écrit de la musique pour son chœur. Et donc c'est chanté par deux chœurs. Là, du coup, on fait une version instrumentale, aussi arrangée par Vincent. Donc c'est une version Britten-Bouchot, quoi.
Vous avez toujours ce lien très fort avec la musique anglaise. Il y a cette série de disques dont deux volumes étaient parus chez Harmonia Mundi. Et on attend la suite avec impatience. Londres, il y a eu 1700 et puis 1720.
Oui, et là on prépare 1740 qui
1740.
va sortir fin août chez Harmonia Mundi.
Donc ça, c'est un répertoire qui est pour vous indispensable, Florence Bolton. Vous avez un attachement personnel.
Oui, alors mon père est anglais, c'est peut-être ça qui fait que je m'intéresse à l'Angleterre, mais Benjamin Perrault aime aussi beaucoup la musique anglaise. Je pense qu'on a un amour pour cette musique qui n'est pas toujours facile à jouer en France d'ailleurs, parce que les programmateurs sont pas forcément à fond sur la musique anglaise, bon, à part Handel qui est un peu européen, quoi, bien sûr, mais c'est vrai que si on pouvait faire plus de concerts de musique anglaise, moi je me plaindrais pas.
Oui, alors que quand Purcell ou Britten sont à l'affiche, les gens adorent.
Oui,
Enfin,
parce que bon, après ils ont un tel génie que.
donc il y a toute cette phase avec Saint-Saëns, Britten, bon, Rameau, La Poule, et qui se termine par ce thème extrait de Mamerlois de Maurice Ravel. Et puis il y a une dernière partie. Vous le disiez, alors plus contemporaine, vous avez eu l'idée, après ce carnaval des animaux et particulièrement des oiseaux, d'évoquer les animaux en péril. Donc ça, c'est la partie aussi originale du disque. Comment ça s'est passé? Vous avez commandé à Vincent Bouchot cette partition?
Oui, alors on lui a demandé d'écrire ça. Alors on va dire que c'est un peu la partie militante du disque, puisque ça parle de problèmes vraiment actuels. Hein. Avec le baroque, on est plutôt dans une partie poétique. Et donc, oui, Vincent a eu l'idée de. On s'était dit que ça serait bien de faire un nouveau carnaval des animaux, qu'on pourrait appeler carnaval des animaux en péril, puisque aujourd'hui on parle vraiment du problème de la biodiversité qui est en chute libre. Et par rapport à Saint-Saëns, qui avait fait un choix d'animaux tout à fait consensuel, des animaux qu'on connaît bien, des poules,
Le lion.
voilà, des poissons, des cygnes, voilà, tout ça, les lions, etc. On les voit au zoo, donc voilà, tout un tas d'animaux familiers, entre
Oui,
guillemets.
puis à l'époque, on n'a pas cette idée de disparition des
Exactement,
espèces.
on est dans une époque où l'animal, il est marrant, quoi. C'est plutôt drôle, le carnaval des animaux. D'ailleurs, Saint-Saëns avait plutôt une réputation de compositeur sérieux, et ça, c'est vraiment une suite drôle et bien.
D'ailleurs, il a refusé que ce soit joué de son vivant.
Exact.
C'est dire à quel point ça sortait de son champ.
Voilà, surtout, c'est marrant d'y penser, parce que finalement, aujourd'hui, on connaît surtout Saint-Saëns par son Carnaval des animaux.
Alors qu'à l'époque, effectivement, c'était l'œuvre, visiblement, qu'il affectionnait le moins, mais souvent, il y a des compositeurs comme ça,
voilà,
comme Ravel avec son Boléro,
oui, voilà,
ou Duca avec l'apprenti sorcier qui triomphe avec une œuvre, mais qui ne veulent plus en entendre parler, parce que ça cache la forêt.
Voilà, c'est ça, et c'est très intéressant d'ailleurs. Alors du coup, on avait envie de partir de ça pour faire un Carnaval des animaux en péril, et Vincent a eu l'idée, que je trouve assez, assez drôle, de faire un choix d'animaux, comme il dit, moches et peu sympathiques, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle des animaux en péril, on va toucher, enfin je parle des médias, et etc., qui vont plus toucher les gens s'ils montrent un éléphant ou un animal, une peluche, genre un panda ou un koala.
Oui, ou les baleines qui disparaissent.
Voilà, tout ça, ça touche tout de suite les gens. Or, on ne s'occupe pas de ceux qui sont en début de chaîne, les insectes, par exemple le concombre de mer ou des trucs comme ça.
Alors, j'ai appris par le texte qui accompagne justement que le concombre des mers était aussi en péril parce qu'il est très prisé.
Et voilà, il est victime de la surpêche, comme plein d'animaux marins d'ailleurs. Et du coup, voilà, ces animaux-là, comme ils ne nous sont pas très sympathiques, ils nous font peut-être peur même.
Oui, ça commence par le pangolin.
Voilà, alors le pangolin, on l'a accusé de tous les maux à cause du Covid. Donc Vincent a eu l'idée de partir d'animaux qui nous déclenchent pas un amour immodéré, mais pour montrer que ceux-là aussi, même les moches et les mal-aimés sont importants, voire peut-être plus importants que les éléphants et les pandas dans la chaîne, dans les équilibres, l'équilibre des écosystèmes en fait.
Il y a un moment même une évocation d'un homme et une femme.
Ça passe
à travers le tapis de la musique.
Ça
j'étais très surpris.
Alors ça, c'est toujours une bouchotterie, on pourrait dire. Mais ça, Vincent, c'est vrai que voilà, c'est son petit côté. Tout d'un coup, hop, il part dans un petit... comme il dit, je me suis un peu lâchée. Voilà, c'est ça. Hop, tout d'un coup, on part dans un homme et une femme au milieu, parce que le thème l'évoque un peu, et hop, du coup, il...
Et donc, pour en revenir au Carnaval des animaux en péril, donc une suite qui a été créée juste là, en 2022, ça s'ouvre par le pangolin. Alors, bien sûr, il y a le dodo, cet animal, cet oiseau symptomatique qui a été exterminé, parce qu'il ne savait plus voler, en fait.
Oui.
Vous le rappelez, d'ailleurs, dans le texte qui accompagne ce disque. Une fois de plus, vous avez fouillé le texte et l'iconographie, Florence Bolton.
Oui, le dodo, c'est un peu l'emblème des animaux disparu. Donc lui, il a disparu au XVIIe siècle et assez rapidement, puisque effectivement, comme vous le rappelez, il n'était pas chassé sur l'île Maurice où il vivait, donc il était bien tranquille. Et quand les hommes sont arrivés, ben, il ne savait pas se défendre, il était trop gros pour voler, donc c'était une proie très facile.
Alors là, les arrangements sont de Vincent Bouchot, bien sûr. Vous êtes plié aussi à des arrangements, donc des musiques que vous n'étiez pas tellement habitué à jouer, même si vous, dans votre formation, il y avait de la musique contemporaine. Et là, c'est joint à vous Sylvain Lemaître au marimba, donc avec un marimba prêté par l'ensemble intercontemporain, sur 5
oui.
octaves, donc un énorme instrument.
Un énorme instrument, merci l'ensemble intercontemporain. Et oui, on a joué avec Sylvain Lemaître. Ce qui est intéressant parce que lui, il fait surtout de la musique contemporaine. Et donc, on a un joyeux mélange là de musiciens baroques et d'instruments baroques avec un musicien contemporain et des instruments contemporains. Et il fallait avoir l'idée, mais c'est vrai que j'aurais jamais, moi, pensé à mettre un marimba avec une flûte à bec ou un vibraphone avec un par-dessus de viol. Et le mélange est vraiment très beau au niveau des couleurs. Donc... Vincent a eu ces belles idées de couleurs instrumentales.
Vous parlez de couleurs, justement, il y a beaucoup de couleurs dans ce disque, avec des instruments très différents. Il y a une étendue incroyable. Ça aussi, c'était un travail de Romain, ça, de choisir l'instrumentarium à chaque fois en fonction des œuvres.
Oui, puis il y a aussi une recherche sur les tessitures, puisque quand on parle d'oiseaux, on est dans des instruments extrêmement aigus. Et puis, voilà, des fois, on va chercher dans le grave. Donc, voilà, c'est un projet qui est étendu autant dans les tessitures que dans les couleurs instrumentales par le choix effectivement des instruments.
Il y a beaucoup d'œuvres que vous avez mises de côté avant d'enregistrer ou vous avez fouillé le répertoire et puis il y a des œuvres que vous n'avez pas mises mais qui vous plaisaient quand même.
C'est vrai que c'est...
Qu'il y a froid peut-être.
Oui, dans les oiseaux, c'est pas évident de faire un choix, mais parce qu'on peut trouver plein de pièces de Rossignol, plein de pièces de Coucou, mais finalement, au bout d'un moment... On a l'impression de jouer un peu toujours la même chose. Donc, il faut trouver des pièces suffisamment intéressantes pour qu'elles puissent s'enrichir les unes les autres. Par exemple, le coucou, c'est vrai que c'est un peu... on a toujours des pièces un peu bébêtes, un peu comme le coucou de Corrette qu'on a mis là-dedans, mais qui a un intérêt parce que d'abord, il a inspiré une pièce de Mio, mais qu'on n'a pas mise sur le disque. Mais il est joué à la musette de course, c'est l'occasion de faire entendre cet instrument, il a été écrit pour ça. Mais ça, c'est l'exemple type du coucou un peu coucou suisse mécanique. Et puis, il y a ce merveilleux coucou au fond des bois de Saint-Saëns. Et on trouvait que c'était une très belle idée de mettre ça, puisque Saint-Saëns a su vraiment capter la poésie du coucou dans son environnement, donc au fond d'un sous-bois, sans doute un peu sombre. Donc il y a une poésie autour de ce coucou et on n'a plus le côté un peu bébête du coucou qu'on peut avoir souvent dans la musique de coucou.
Florence Bolton, l'ensemble La Rêveuse est vraiment installé maintenant dans le paysage musical français et même étranger. Ça fait combien de temps déjà que votre ensemble existe ?
Alors, on a décidé de créer La Rêveuse en 2004 avec Benjamin.
Ah oui, donc il va y avoir des événements.
Oui, on a 20 ans l'année prochaine, c'est ça ? Oui, voilà, c'est
donc
ça.
Donc on attend des événements.
Oula.
Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans le texte qui accompagne, c'est que vous rappelez que les instruments que vous jouez aussi sont des instruments en péril, puisque là, vous parliez de copies d'instruments sur lesquels vous jouez. Effectivement, il y a ça aussi, cette idée que vous avez... c'est la résurrection de la viole de gambe, d'autres instruments qui étaient complètement disparus.
Oui, une partie des instruments baroques ont effectivement disparu au cours du XVIIIe siècle. Ils étaient enseignés essentiellement à l'oral. Hein. On a des traités, mais après, c'est pas toujours précis, parce qu'on trouve un traité qui dit « faites comme si », un autre qui dit « ne faites pas comme si, faites comme ça ». Donc voilà, la vérité est sans doute au milieu. Mais quand on arrête, quand on rompt cette chaîne-là, et de même pour la fabrication des instruments, quand on arrête d'en fabriquer, eh bien, un siècle après, quand on redécouvre les instruments, qu'on essaie de les jouer, on est complètement perdu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin, je parle pour la viole de gambe, par exemple, que je connais mieux, mais c'est vrai que quand on a redécouvert la viole de gambe à la fin du 19e, début 20e, c'est très intéressant de lire les écrits sur cet instrument, parce que les gens trouvent que ça sonne comme une guimbarde, voilà, enfin, vraiment texto... on trouve voilà, les gens ont tellement dans l'oreille le son du violoncelle moderne que quand ils écoutent une viole, ils trouvent que vraiment c'est grillard, enfin pas grillard mais c'est aigre, ça sonne pas, etc. Donc il faut arriver à voilà à faire un grand travail de réhabilitation de l'instrument aussi pour que les gens se remettent ce son-là dans les oreilles.
Mais alors le violoncelle, on a eu Pablo Casals qui était le grand génie qui est à l'origine aussi de la résurrection, enfin pas la résurrection, cet instrument il était joué dans les orchestres, mais au niveau soliste du violoncelle. Mais pour la viole de gambe, quels sont les grands noms justement qui ont participé de cette résurrection de l'instrument, Florence Bolton?
Alors il y a eu des violoncellistes d'ailleurs au début du XXe siècle qui ont réessayé de jouer la viole de gambe. Mais après, on ne peut pas dire que l'instrument est vraiment intéressé. C'est seulement dans les années 60-70, avec vraiment des Arnoncourt, voilà, toute cette génération-là, qu'on recommence petit à petit à jouer de la viole. Elle était jouée vraiment au début du XXe siècle aussi, mais ce n'était pas un coup de cœur, quoi. On sent que les gens disaient, bon, intéressant, mais vaut mieux jouer Marin Marais sur un violoncelle, par exemple. C'est ce qui s'est fait...
Alors quand on parle de La Rêveuse aussi et quand on voit le nombre de concerts que vous donnez, je m'en réjouis, Florence Bolton, on est impressionné. Et vous partez notamment en tournée au Canada. Donc, c'est un pays que vous avez déjà exploré plusieurs fois sur le plan musical. Et vous allez jouer ce concert des oiseaux ou d'autres répertoires
Oui,
là-bas.
Alors on va jouer le concert des oiseaux au Canada. Et ça fait plusieurs années qu'on fait des tournées au Canada, donc on a un peu nos habitudes. Mais à cette tournée-là, celle qui est en avril 2023, c'est une tournée de 2020
qui a été reportée.
C'était assez compliqué au moment du confinement de reporter toutes les tournées internationales. D'ailleurs, il y en a qui ont été reportées une fois, puis ça ne marchait pas la fois d'après parce qu'il y avait encore des protocoles et des restrictions. Donc voilà, tout ce qui était international a été vraiment très perturbé. Donc là, on est sur une tournée de 2020 qu'on fait en 2023.
Et là-bas, vous donnez des masterclass aussi ou alors, qu'en est-il là-bas au Canada, justement, de l'enseignement de la musique baroque ou... c'est un pays riche à cet égard.
Alors, ça dépend des instruments. Par exemple, là, il y aura des masterclass, mais des masterclass de flûte à bec, données par Sébastien Marc, qui fait la tournée avec nous. Parce qu'il y a eu une forte demande. Apparemment, il y a beaucoup de flûtistes amateurs, surtout sur la côte ouest. Donc, il y a eu une demande que Sébastien fasse travailler des groupes de flûtistes. Alors, c'est des flûtistes amateurs, là, mais parfois, effectivement, on a des demandes au sein d'universités, voilà, pour des futurs professionnels. Voilà, ça peut arriver aussi.
Et alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous écouter le 16 novembre dernier à Paris, vous serez le 30 mars à nouveau dans le cadre de la Philharmonie. Là, c'est un concert autour du Rossignol, alors ?
Oui, pour la nuit du Rossignol, qui est un événement autour des oiseaux. Donc, il y a plein d'événements dans le musée de la musique. Je ne sais pas exactement qui sera là ce soir-là, mais nous, on y sera en tout cas. Et donc, on va faire une partie du concert des oiseaux. On pourra entendre du flageolet d'oiseaux. Et voilà, c'est tous ces instruments un peu curieux que finalement, on ne connaît pas tant que ça.
Et qui nous permet de redécouvrir ce disque, le concert des oiseaux et le carnaval des animaux en péril, par votre ensemble La Rêveuse, qui vient de paraître pour le label Harmonia Mundi. C'est un disque à la fois très beau à écouter et très beau à regarder. Donc c'est une suspension de votre itinéraire, la musique anglaise, Londres, bientôt 1740. Donc vous avez fait une interruption avec ce disque.
Voilà, qui est arrivé un peu d'une manière inattendue, puisque Harmonia Mundi avait envie que ce projet soit fait. Et en plus, c'était une collaboration avec la Philharmonie dans le cadre de la grande exposition Musique Animale, puisqu'on a créé le spectacle, le Carnaval des Animaux en Péril, à
dans
Musique Animale. Voilà.
Qui était vraiment magnifique.
Oui, très belle exposition, oui.
Mais émouvante, et puis bon, ça rend triste en même temps.
Oui.
C'est à la fois gai, c'est rare les oiseaux, mais ça rend quand même très triste.
Bah, c'est comme le sujet du Carnaval des Animaux en Péril, parce qu'on se dit, il faut qu'il y ait de l'humour, voilà, faut que ça soit pas trop triste, mais en même temps, ça, d'ailleurs, il se termine sur la gigue de l'être humain, intitulée « Sa fuite en avant ». Donc, c'est nous qui avons les clés en main de ce qu'on veut faire après. Voilà, tout dépend de nous.
Bon, bah, espérons que ces clés seront de
bonnes mains. Bonne main.
Et en entendant la suite de votre itinéraire musical anglais, Florence Bolton, je rappelle l'apparition de ce concert des oiseaux et du carnaval des animaux en péril, donc cette œuvre originale de Vincent Bouchot, par votre ensemble La Rêveuse, paru chez Harmonia Mundi. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup.